C'est le moment Gestalt.
Gestaltmoment.
Gestaltmoment.
Bonsoir à tous, on est sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, c'est la nouvelle émission Gestalt. On continue un petit peu à faire le tour des personnes, des associations et des actions qui sont menées entre l'art et le soin. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Valentine Hu. Coucou Valentine. Valentine, tu vas venir aujourd'hui nous parler un petit peu de ce que tu fais en tant que bénévole, mais aussi ce que tu fais dans une structure. La structure, elle s'appelle le MACVAL.
C'est ça.
Et l'association, c'est Souffleur de Sens. Ton parcours, il permet de parler beaucoup des différentes façons dont on peut percevoir l'action du soin et de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite ou porteurs de handicap dans le milieu culturel et à travers l'art. Et donc, ça va être l'occasion pendant cette heure, tous ensemble, d'échanger en fait sur ces questions d'accompagnement, de proximité, de lien à faire entre les différentes formes de structure et de structuration dans le milieu culturel, mais aussi comment le public s'approprie en fait ces liens et ce qui est mis en place. Donc pour te présenter un petit peu, Valentine, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton parcours, ce que tu fais précisément en ce moment, et voilà, savoir un petit peu qui tu es.
Oui, bien sûr. Donc je suis en fin de master 2 médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle. Et je suis également en alternance au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, donc qui se situe à Vitry-sur-Seine. Et en fait, j'ai toujours été sensible aux ce qu'on appelle les marges, aux personnes un peu en dehors du système. Et ça paraissait évident, en fait, quand je me suis embarquée dans le monde de la culture, de mener des actions pour des publics qu'on dit empêcher, même si ce terme ne me plaît pas forcément. Et c'est pourquoi j'ai décidé de postuler précisément au MACVAL, parce que c'est un musée qui est sensiblement ouvert sur son public et qui mène des actions au quotidien pour l'inclusion de tous et de toutes. Et en parallèle de ça, depuis plus d'un an maintenant, je suis bénévole souffleur d'images. Donc dans l'association Souffleur de Sens, et j'accompagne du coup des personnes déficientes visuelles dans des expositions pour aller voir des spectacles et pour les partager un moment avec eux culturel.
D'accord, donc tu t'es toujours en fait sentie concernée et intéressée par les marges. Et justement, on parle de marges et à la fois, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait que le terme justement public empêché pouvait être quelque chose de dérangeant ou en tout cas ne représentait pas suffisamment le public sur lequel on propose ces actions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce terme est dérangeant ?
Moi, personnellement, je le trouve dérangeant parce que ce n'est pas parce qu'on possède un handicap, qu'il soit mental, moteur, psychique, cognitif, sensoriel, on est empêché de faire quelque chose. Au contraire, on a d'autres manières de les faire, mais on peut quand même les faire. Et on a quand même la possibilité et l'envie. Et du coup, ce terme de public empêché, pour moi, ne me plaît pas. Et je voudrais que, au-delà de se dire que ces publics-là... vu qu'ils sont soi-disant différents ou ont des spécificités, on va trouver des solutions pour les inclure. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais plutôt que de les inclure, il faudrait juste les prendre pour des personnes à part entière, comme nous, tous et toutes, et travailler avec eux, en fait, créer avec eux des manières... de voir le monde de la culture, parce qu'en fait, finalement, ils ont beaucoup plus de capacités que nous en étant pleinement capables de nos sens et de tout ça.
J'ai l'impression que du coup, ce que tu soulèves aussi là-dedans, c'est qu'il y a d'une part une nécessité de sensibiliser le milieu culturel ou en tout cas les personnes qui ne sont pas forcément conscientes justement de l'utilisation de ce jargon-là qui peut être du coup problématique ou en tout cas pas représentatif. Donc il y a d'une part cette importance de sensibiliser du coup les personnes à ces questions-là et à intégrer un public sans qu'ils soient justement considérés comme exclus, mais comme des êtres à part entière, comme tu le dis très bien. Et d'autre part, permettre du coup une sensibilisation et une ouverture aux pratiques artistiques qui permettent justement à se faire confiance et à leur permettre d'accéder à l'art comme tout le monde.
Oui, complètement. C'est même essentiel.
Et c'est ce que tu fais du coup à travers ces deux champs d'action, ces deux endroits.
Ce que j'essaye de faire, oui.
Pour toi, c'est quoi l'accessibilité en tant que telle ?
L'accessibilité, c'est au-delà du handicap, rendre une œuvre d'art, un lieu accessible à tous et à toutes, au-delà du handicap, des spécificités. Et aussi et surtout mêler en fait des profils différents. Pour moi, la vraie accessibilité, c'est ça, c'est réussir à mélanger des personnes qui ne se seraient pas forcément croisées pour aller encore plus loin et pour mener des actions, entreprendre des projets qui finalement peuvent faire écho à encore plus de gens. En fait, pour moi, c'est ça l'accessibilité, c'est vraiment mélanger, trouver des actions, des opportunités communes ensemble pour faire évoluer l'accès à la culture.
Donc on a l'image de quelque chose qui s'agrandit et qui ouvre d'autres portes encore et encore de manière infinie.
Oui, parce que la culture, c'est pas juste aller dans un musée ou dans une fondation, ça va au-delà. C'est quelque chose du quotidien en fait, la culture, donc ça se trouve pas uniquement dans les lieux d'art.
D'où l'importance que ces questions-là nous portent au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'association Souffleurs de Sens, pour commencer, dans laquelle tu interviens en tant que bénévole dans la cellule, le service Souffleurs d'Images ?
Oui, Souffleurs de Sens, c'est anciennement CRTH, donc Centre Recherche Théâtre Handicap, qui existe depuis 1993. Et au tout début, c'était une compagnie de théâtre qui s'est posé la question comment rassembler des personnes en situation de handicap et le milieu du théâtre. Ça a énormément évolué, et tant mieux, et depuis peu, ça s'appelle Souffleurs de Sens. Et en fait, c'est une association qui entreprend des projets, des créations artistiques, mêlant des structures culturelles, avec des structures médico-sociales et des individuels, que ce soit des artistes, des personnes en situation de handicap, des étudiantes comme moi, n'importe qui en fait dans le quotidien, au milieu de l'accessibilité et la culture. Et donc Souffleurs de Sens, ils possèdent aujourd'hui deux pôles. Un pôle accessibilité qui est vraiment dédié aux structures médico-sociales et structures institutionnelles, culturelles, et un pôle art et handicap qui, lui, vraiment développe des projets artistiques avec des artistes, avec des compagnies, que ce soit des compagnies de théâtre ou autre, et avec des personnes en situation de handicap. Et en fait, l'idée maîtresse, on va dire, de cette association, voilà, c'est de co-créer, d'apprendre ensemble pour toujours développer l'accessibilité dans les lieux culturels et dans les structures médico-sociales.
D'accord, l'un dans l'autre, c'est un travail qui se mutualise à plusieurs. J'ai l'impression que c'est l'axe premier de l'association, c'est de pouvoir faire se correspondre ces actions à plusieurs et dans les différents domaines. Oui. C'est une association qui a plus de 30 ans d'expérience. Est-ce que l'accompagnement des publics individuels se diffère de l'accompagnement que l'on peut faire auprès des institutions ou des lieux culturels ? Est-ce qu'il y a un temps de formation, quelque chose de peut-être plus théorique pour les lieux culturels et les acteurs médico-sociaux ? et quelque chose de plus individuel auprès des artistes et des personnes intéressées par l'accompagnement ?
Oui. Souffleur de Sens propose en fait des formations pour les structures médico-sociales et pour les structures culturelles. Donc l'une dans l'autre, dans les structures médico-sociales pour parler de la culture et dans les structures culturelles pour parler du handicap. Donc ils proposent des formations assez importantes et très aussi personnalisées. Mmh. Donc forcément, l'association s'adapte à la structure à laquelle elle s'adresse. Et c'est en ça que c'est une force chez Souffleur de Sens. Et en plus de ça, donc moi en tant que bénévole, j'ai suivi une formation pour être bénévole souffleur d'image. Donc là c'est spécifique, c'est pour accompagner des personnes aveugles et malvoyantes. Et cette formation que j'ai eue, n'importe qui s'inscrit peut la suivre, du moment qu'on a déjà un pied dans le milieu culturel. Et pour les artistes, pour les compagnies qui interviennent, là aussi c'est une... Alors le terme formation est peut-être un peu gros, mais il y a une sensibilisation en tout cas au handicap et du coup à ce travail qui va être fait avec des personnes en situation de handicap pendant un atelier artistique, un workshop, des choses comme ça. Donc Souffleur de Sens travaille réellement avec les structures avec lesquelles... elle travaille.
D'accord, donc il y a une vraie démarche de sensibilisation, de formation professionnelle, avec parfois des mises à disposition de locaux aussi qui sont accessibles. Et alors moi, la question que je me posais, c'était comment on met en place des systèmes d'audio-description ou des systèmes de surtitrage ? Parce que donc, le public concerné principalement, est-ce que c'est celui des personnes aveugles et sourdes ? Quel public ? Et comment s'articule cette question de l'audio-description et du surtitrage que vous proposez dans ce pôle d'accessibilité ?
Alors, l'audio-description, c'est... une technique qui a été développée de base pour le cinéma et qui ensuite est apparue aussi dans tout le milieu culturel. Et c'est à destination des personnes aveugles et malvoyantes. Et finalement, en fait, de tous et toutes, parce que c'est toujours très intéressant. Et le principe de l'audio-description, c'est de manière audio, donc avec un casque, avec des écouteurs, avec des bornes sonores, d'avoir la description d'une œuvre d'art ou d'un spectacle. Donc c'est en direct. Pour une œuvre d'art, voilà, une fois que la description elle a été faite, n'importe qui peut l'écouter à n'importe quel moment. Pour un spectacle, ça se prépare en amont. Donc la personne en charge de l'audio-description, elle est formée, elle a une formation, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et ensuite, en fait, elle va, avec un vocabulaire très précis, raconter ce qu'une personne voyante voit pendant le spectacle, sur l'image, sur l'œuvre d'art. Pour que ça puisse créer une image mentale chez la personne aveugle ou malvoyante, en fait. Et le surtitrage, du coup, c'est pour les personnes sourdes ou malentendantes. Et là, c'est juste... Enfin, juste, non. Mais là, c'est de la transcription par écrit des paroles qui sont dites lors d'un spectacle vivant ou d'un film, d'une vidéo.
D'accord, donc le public principal reste un public qui est malvoyant, non-voyant ou sourd.
Oui.
Il y a d'autres personnes qui peuvent profiter, tout le monde en fait.
Tout le monde peut profiter. Le surtitrage par exemple, c'est un enfant par exemple qui apprend à lire, il va être content de pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Une ou deux descriptions... souvent ça emploie des termes assez techniques sur la création d'une œuvre qui sont finalement des informations hyper intéressantes pour n'importe qui. Donc en fait c'est des outils qui de base effectivement sont à destination de ces publics là mais qui en fait sont pertinents pour tout le monde.
Mais j'ai l'impression que cette pertinence n'est pas rentrée dans le quotidien pour tout le monde.
Non, ça on est c'est bizarrement c'est encore assez méconnu. Des gens qui ont toutes leurs capacités sensorielles. C'est assez méconnu, en fait, le système d'audio-description et de surtitrage. Mmh. Et c'est vrai qu'il faudrait le développer plus.
Tu fais partie des champs d'action important. Une autre question que je me pose, quand tu décrivais justement l'accompagnement que l'on pouvait faire dans la description des œuvres, notamment autour de la voix, c'est un travail en commun qui se fait, une création en commun avec la personne qui reçoit les informations, parce que il y a quand même quelque chose où je me demande si c'est pas très subjectif au final. Est-ce qu'il y a un travail sur le fait que quelqu'un qui vient proposer une description d'une œuvre n'a pas son mot à dire? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il a carte blanche pour dire ce qu'il voit, pour le transmettre? Est-ce qu'il y a un code?
Alors, il n'y a pas de code. C'est au bon vouloir, en fait, des personnes qui réalisent les audiodescriptions. Après, dans les règles, quand même, on estime qu'une audiodescription doit simplement décrire vraiment, profondément, une image et potentiellement donner quelques pistes d'interprétation. Mais l'idée, c'est que la personne, en fait, qui écoute l'audiodescription se fasse elle-même sa propre interprétation grâce à la description. Donc, en fait, comme à l'image, finalement, d'une visite guidée qu'on pourrait avoir, l'idée, c'est d'envoyer quelques pistes comme ça, mais de ne pas dire ce tableau veut dire ça, en fait. Et c'est un peu ça, toute la subtilité de l'audiodescription, c'est de réussir à mêler un peu tous ces vocabulaires pour créer l'image mentale et pour créer aussi la compréhension personnelle, en fait, finalement, d'une œuvre.
Tout est là-dedans, c'est-à-dire laisser cet espace à l'autre de développer son imaginaire et sa propre interprétation pour que sa subjectivité soit respectée tout en étant accompagnée par la vôtre.
C'est ça.
C'est très beau, je trouve,
oui.
Comme partage, en fait. C'est pas une ordonnance, c'est, c'est à deux.
C'est un partage complètement, oui.
Ouais. Qui peut proposer ces descriptions-là? Est-ce que l'on doit, si par exemple les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour faire ça, est-ce que l'on doit être diplômé d'histoire de l'art? Est-ce qu'on doit être quelqu'un d'érudit? Y a-t-il quand même quelque chose, une importance là-dedans?
Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine sensibilité pour l'art, pour la culture. Ça paraît assez évident. Après, il y a des formations qui sont données, notamment par Souffleur de Sens, pour apprendre l'audiodescription et par plein d'autres personnes. Disons que pour que ça soit officiel dans une institution culturelle, effectivement, il faut quand même avoir un bagage un peu derrière. Mais par contre, vouloir accompagner quelqu'un d'aveugle ou de malvoyant dans un lieu culturel pour lui décrire ce que nous, on voit, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas besoin de s'y connaître, en fait.
D'accord. Par rapport à Souffleur d'image, donc qui est une spécificité à part entière de Souffleur de Sens, donc on a déjà un petit peu commencé à parler de ce qui était possible. Tu es bénévole dans Souffleur d'image. On aimerait bien savoir comment ça se traduit, ce que tu fais, déjà pour commencer.
Oui. Donc Souffleur d'image, c'est un service de souffleur de sens. En fait, quand on veut devenir bénévole souffleur d'image, donc on s'inscrit, on suit une formation d'une demi-journée où on apprend les principes du guidage d'une personne aveugle ou malvoyante. Et ensuite, on apprend à, et c'est la particularité de souffleur d'image, on apprend à souffler. Et on n'apprend pas à faire de la description, justement. La petite nuance, elle est dans le partage mutuel qui va se faire, en fait, entre la personne bénévole et la personne qu'on accompagne. Donc, c'est vraiment l'idée de décrire ce qu'on voit, de parler de ce qu'on voit, mais ça va être aussi beaucoup d'échanger et de s'écouter mutuellement. Donc, notamment pour le spectacle vivant, quand on fait un soufflage pour le spectacle vivant, l'idée, c'est toujours en amont de discuter avec la personne qu'on accompagne pour savoir ce qu'elle a envie, en fait, qu'on lui souffle. Donc, l'idée, c'est pas de tout souffler, parce qu'en fonction des spectacles, des fois, il se passe plein de choses et on n'a pas forcément le temps. parce que il faut trouver les interstices entre les moments de blanc quand les comédiens ne parlent pas. Il ne faut pas non plus déranger les personnes autour. Donc voilà, c'est tout un une sensibilité à trouver. Et c'est pour ça que discuter avec la personne en amont pour savoir. Voilà, si elle veut qu'on axe plus sur les décors, sur les costumes, sur la lumière, sur le déplacement aussi des comédiens et des comédiennes. Donc c'est, en fait, c'est vraiment un partage, un moment très fort culturel avec ces personnes-là.
Ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression qu'en amont même d'être percutée et de recevoir une œuvre d'art, vous êtes du coup un peu immergé dans la sensibilité de la personne qui vous dit voilà, moi je préfère être dans le costume, dans la scéno, je préfère être dans la description du cœur de la proposition artistique, dans le sens que ça veut vouloir dire. Ça prouve que la personne en tant que telle a une sensibilité plus pour quelque chose et pour l'autre. Donc c'est déjà une rencontre avant même ce partage de l'œuvre.
Ouais, c'est complètement ça. J'aime bien l'utilisation du mot rencontre. C'est une rencontre et c'est très souvent de très belles rencontres parce que voilà, chaque personne est différente et on s'adapte à chacun et à chacune. Et forcément, c'est ça qui est beau aussi et c'est ça que j'adore dans le soufflage, c'est que en fonction de ce que la personne va vouloir qu'on lui souffle, on va voir la pièce ou l'œuvre d'art complètement différemment. Et moi, à chaque fois que je regarde une œuvre avec une personne aveugle ou une personne malvoyante, je la vois différemment. Mmh. Et en fait, et c'est ce moment-là ce qui est incroyable, en fait.
Donc, plus porté sur les sens.
Oui.
Ça veut dire qu'en temps normal, bon, voilà, sans encore une fois catégoriser normal, empêché, oui. on va faire attention à ce qu'on dit. Si nous ne sommes pas dans une situation quelconque de retrait, de mise à côté de l'œuvre et qu'on a vraiment tous nos sens avec nous, est-ce que pour autant, voilà, au quotidien, on se coupe de cela ? J'ai l'impression qu'effectivement, quand on les a tous, ces sens-là, on se rend moins compte de l'importance qu'ils ont. On l'a vu avec voilà, les potentiels symptômes qui ont été existants avec le Covid, oui. Où on s'est rendu compte de l'importance du goût, de l'odorat. Et c'est vrai qu'il faut des fois cet élément déclencheur-là pour se rendre compte de toutes les capacités qu'on peut avoir, de tous les sens possibles, notamment dans la réception de l'art.
Oui, je suis entièrement convaincue qu'une personne qui a un sens en moins a beaucoup plus de capacités qu'une personne qui les possède tous pour recevoir de l'art. Parce que les sensibilités, en fait, elles sont décuplées. Et du coup, c'est forcément très très beau pour une personne qui possède tous ses sens de visiter une exposition ou de voir une pièce de théâtre avec une personne, que ce soit une personne sourde, une personne aveugle, une personne... Enfin, voilà. Et en fait, ça, effectivement, ça nous permet du coup de... Voilà, de se recentrer un peu sur nous-mêmes et de se dire ok, en fait, tous mes sens, ils sont importants et tous mes sens, il faut que je les utilise pleinement alors qu'on ne les utilise pas tous parce que la vue, en fait, prédomine notre quotidien et on oublie très, très facilement les autres et il faut vraiment que ça revienne.
On va y venir aux moyens et aux actions mises en place notamment par les institutions culturelles qui quand même ont des propositions assez intéressantes sur l'articulation entre exposition, proposition artistique et multiplication sensorielle, extension sensorielle qui peuvent exister dans les médiations notamment à travers la mémoire olfactive et etc. Moi, je me posais une dernière question sur ce qui est de, voilà, de souffler, d'être souffleur d'image. Est-ce que tu penses que toute cette quand même évolution, cette tendance à la voix, notamment qui a été multipliée par la radio, qui a été avancée par la radio, maintenant on écoute beaucoup de podcasts, il y a eu cette tendance qui est toujours actuelle de l'ASMR aussi. Penses-tu que ça a été peut-être une opportunité ou en tout cas quelque chose qui a amené les gens à se poser plus sur la voix, à réfléchir justement à comment la voix, au-delà de l'information à travers la radio ou du divertissement ou de l'ASMR comme, comme moyen thérapeutique aussi d'ailleurs, penses-tu que justement ça a permis d'ouvrir un spectre plus large et un intérêt plus large à, au côté thérapeutique de la voix ?
Oui, c'est sûr, c'est une évidence. Et d'ailleurs, ça se... Pardon. Ça se multiplie dans les institutions culturelles, ce principe des podcasts, ce principe de, d'accompagner quelqu'un par la voix et pas forcément par, par le physique, enfin par la présence physique. Et c'est quelque chose, je pense, qui va prendre encore plus d'ampleur, enfin en tout cas je l'espère, parce que c'est des moyens d'accessibilité en fait finalement. Et je pense que ça peut être très beau parce que la voix, c'est quand même quelque chose de très personnel et à la fois quelque chose qui se partage avec tout le monde. Donc, je pense que ça peut se développer encore beaucoup plus de partout et pas uniquement dans le milieu culturel, en fait.
Pour autant, comment faire la distinction entre une proposition de type podcast, un enregistrement sonore à quelqu'un voilà, qui ne peut pas forcément voir l'œuvre, de la présence de quelqu'un qui l'accompagne dans cette œuvre. Il y a quand même
une très grosse différence
humaine. L'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, oui. les deux doivent exister, coexister, parce que la relation humaine reste cette question de partage importante.
Oui, les deux doivent exister. Et je pense que la différence qui est notoire entre les deux, c'est simplement que la voix enregistrée, on va dire, permet en fait finalement l'autonomie aux personnes aveugles ou malvoyantes. Et c'est en ça que l'accessibilité prend tout son sens. C'est à partir du moment où on permet cette autonomie-là à ces personnes. Alors évidemment, la présence humaine est primordiale et elle sera toujours préférée à un enregistrement sonore. Néanmoins, c'est important de permettre cette autonomie.
Qui est à la fois l'autonomie et à la fois cette relation à l'autre.
Oui,
ouais. D'accord. On va faire une petite pause musicale et après on pourra parler du musée d'art contemporain du Val-de-Marne et ce que tu y fais. Donc on va écouter un morceau, c'est celui de Laurent Barden, Tigre d'eau douce et Bertrand Belin qui s'appelle Oiseau.
Les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers, t'es un oiseau, même un tout petit. Je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon vent sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombes. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui.
De Radio Campus Paris sur l'émission Gestalt, et on est avec Valentine Hu qui vient aujourd'hui nous parler de ses actions, de ce qu'elle mène au sein de l'association Souffleurs de Sens, mais aussi du MACVAL. Alors le MACVAL, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le MACVAL, quelle structure précisément cela représente et ce qu'on y fait?
Le MACVAL, c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne qui se situe à Vitry-sur-Seine. C'est un musée départemental, donc il dépend du département du Val-de-Marne, d'où son nom. c'est un jeune musée parce qu'il a ouvert en 2005, donc ça fait un peu plus de 15 ans aujourd'hui qu'il accueille au quotidien les publics. Et c'est un musée qui présente uniquement des artistes français ou travaillant sur la scène française contemporain. Donc contemporain, on le situe à peu près à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc dans la plupart des cas, on travaille avec des artistes qui sont encore vivants. Donc ce qui est plutôt intéressant parce que du coup, il y a toujours une discussion qui peut être faite avec, avec les artistes, et c'est quand même très riche souvent. Donc voilà. Et le MACVAL présente tout le temps, sauf pendant les périodes de transition, deux expositions. Une exposition qu'on appelle l'exposition de la collection. Donc en fait, on montre les œuvres qui appartiennent au musée. Donc ça, souvent, c'est une exposition qui dure un an et demi. C'est ce qu'on appelle exposition permanente dans les autres institutions, sauf que nous, en fait, comme on la change pour pouvoir montrer toutes les œuvres, on appelle exposition de la collection. Et ensuite, on a des expositions temporaires qui, elles, sont sur des temps plus courtes et qui présentent soit des via des thématiques, plusieurs artistes, soit ce sont des monographies, soit, comme on a en ce moment, c'est une duographie, donc c'est un couple d'artistes qui est en ce moment présenté au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et le MacVal a, dès l'ouverture, voulu développer une accessibilité forte. Donc dès le début, il y a eu un chargé de l'accessibilité. C'était un des enjeux majeurs de ce musée. C'est-à-dire qu'en étant un musée départemental, il voulait toucher la population de son territoire.
D'accord.
Donc en étant en banlieue parisienne, l'idée c'était pas forcément de toucher les Parisiens qui peuvent déjà se rendre dans des institutions d'art contemporain à Paris, mais c'était de toucher la population locale. Et le pari est plutôt gagné parce que c'est l'essentiel de nos visiteurs et visiteuses. Et donc d'un point de vue d'accessibilité, l'idée c'était encore une fois d'inclure tous les publics. Et dès le début en fait ça a été aussi vraiment de mixer les publics et de travailler avec eux et avec elles pour toujours offrir des offres de médiation adaptées, accessibles, intéressantes, inclusives, divertissantes, enfin voilà.
Il y a eu du coup des collaborations différentes sur un volet qui est plutôt social, un volet différent du social uniquement, mais plutôt sur l'accessibilité à d'autres publics que celui porteur de handicap. Donc en fait, c'est un public assez large.
Oui, 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 ça touche pas uniquement les publics handicapés, ça touche les publics, enfin voilà, ce qu'on appelle champ social. Donc les les personnes là pour le coup éloignées de la culture. De par leur spécificité, leur vie en fait, ce qu'ils ont vécu, ce qu'on appelle donc, les personnes éloignées. Et l'idée c'était de travailler avec des structures qui sont devenues des partenaires pour offrir des médiations adaptées, inclusives et qui permettent aussi une forme de pratique artistique.
D'accord, je demande ça parce qu'effectivement... J'ai l'impression que dans le paysage culturel, les représentations que l'on peut se faire, si tant est qu'on y travaille ou qu'on est uniquement un public, on n'a pas forcément en tête que dans l'équipe des publics, du développement des publics, ce qu'on appelle le développement des publics, donc qui s'intéresse à la question du public qui rentre dans l'espace, on n'a pas forcément en tête que dans cette équipe-là, il va y avoir une personne qui est chargée des publics dans le champ social et du handicap, parce qu'en fait au final c'est pas récurrent, en tout cas j'ai pas l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais ça se développe.
Oui, ça se développe heureusement. En fait depuis la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, c'est devenu une obligation que de proposer une offre accessible dans une institution culturelle. Après évidemment toutes les institutions n'ont pas de chargé de l'accessibilité, mais disons que ça commence quand même à être réellement présent et pris en compte dans beaucoup d'institutions culturelles. Et c'est important parce que effectivement, dans ce développement-là des publics, il faut qu'il y ait une personne référente. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui prenne contact avec les structures autour, travailler avec leurs envies, leurs attentes. Et c'est en passant par cette personne-là qu'on peut accueillir beaucoup plus de public.
Donc une personne intermédiaire à nouveau, comme le fait Souffleur de Sens, mettre en lien et les artistes, et les publics, et les acteurs à la fois médico-social et culturel, voilà, c'est cette personne un peu intermédiaire, pilier.
Oui.
Dans le public du MacVal, en termes d'accessibilité, vous avez un public en situation de handicap à mobilité réduite, en situation de handicap mental ou psychique, des personnes aveugles et malvoyantes, des personnes sourdes ou malentendantes. Vous organisez donc ces médiations-là en fonction de la subjectivité de chaque personne, ou en tout cas du groupe, en fonction de ce qu'ils représentent aussi dans leur façon de pouvoir accéder aux propositions. Comment se représentons-nous ces visites-là et ces ateliers si on n'a jamais été encore au MacVal ?
L'idée, c'est de... Tout... En fait, ça passe très concrètement quand un groupe, une structure souhaite venir faire une visite au MacVal. Ça passe toujours donc par la chargée de l'accessibilité. Et ensuite, c'est le conférencier ou la conférencière, nous c'est comme ça qu'on appelle les médiateurs culturels au MacVal, prennent contact avec la structure et ensemble, elles réfléchissent à comment va se dérouler la visite. Donc en fait, à chaque fois, chaque visite est personnalisée et adaptée en fonction du public. Et c'est un peu ça la force du MacVal, je pense, c'est qu'on s'adapte constamment au groupe, aux spécificités de chacun et chacune. Alors après, évidemment, il y a des récurrences, parce que forcément, pour une les visites en langue des signes française, elles seront toujours pas les mêmes, mais elles seront toujours plus ou moins faites de la même manière, parce que c'est des visites pour les personnes sourdes et malentendantes. Mmh. Mais en même temps, ça vient aussi de la sensibilité de la personne qui fait la visite. Il y a des récurrences quand même, mais l'objectif au MacVal, c'est de travailler avec les structures pour proposer des visites adaptées. Et souvent, on aime, en tout cas pour les personnes porteuses de handicap, proposer aussi des temps de création artistique. Et ça, c'est souvent un moment très beau, parce que souvent on visite l'exposition et en fait ensuite on va en atelier et grâce à des œuvres d'art qu'on a vues ensemble, on va tenter de reproduire les pratiques artistiques qu'on a vues. Et en fait, faire ce parallèle-là entre ce qu'on a vu d'une œuvre d'art qui peut paraître... un musée, ça peut être... on a encore l'idée d'un musée sacré avec des œuvres iconiques, Et là, de pouvoir pratiquer soi-même ce qu'on a vu juste avant, tout de suite, en fait, c'est une révélation pour les personnes et c'est des moments très, très beaux.
Est-ce que tu as des exemples pour les auditeurs d'ateliers qui ont pu être menés ?
Oui, il y en a plein. Mais par exemple, on a travaillé récemment avec... c'est une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Chose. Et en fait, elle regroupe deux publics, à chaque fois deux typologies de publics différents. Là, cette année, c'était des scolaires avec un public, avec des personnes d'un hôpital psychiatrique. Et en fait, ils sont venus, ce groupe-là est venu deux fois au musée. Une première fois où on a mélangé les groupes, parce que de toute façon, l'idée, c'est de mélanger. C'est pas du tout de séparer. on a visité l'exposition. C'est une exposition en ce moment au MacVal qui s'appelle « À main nue » et qui parle du corps dans toutes les représentations possibles et imaginables. Que ce soit... en plus, il y a plusieurs médiums différents qui sont proposés dans l'exposition, donc de la vidéo, de la peinture, de la photographie, du son, plein de choses. Et en fait, ça parle des corps individuels, des corps collectifs, des corps déguisés, des corps intimes aussi. Et en fait, avec ces groupes-là, donc on a visité l'exposition et ensuite ils sont revenus une deuxième fois où là on a fait une pratique artistique où on a voulu justement travailler sur ce corps-là et par petits groupes proposer en fait à 4-5 de créer le personnage du groupe. Un peu peut-être comme une mascotte ou comme un personnage hybride, par rapport à leur sensibilité. En fait, ensemble, ils ont communiqué et ils se sont dit moi je veux quelque chose de plus délirant, quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus triste, Et donc nous, on a proposé plein d'outils, plein de magazines, plein de matériaux, on va dire. Et en plus de ça, on a fait des photos individuelles de chacun. Et en fait, à partir de ça, ils ont fait un collage de leur personnage fantastique, hybride, imaginaire. Et ensuite, l'idée, c'était de faire un tour de table et de se raconter les uns aux autres ce que voulait dire ce personnage-là. Et c'était un moment très beau parce que... mélanger ces groupes-là, des enfants et des personnes d'un hôpital psychiatrique, de premier abord, comme ça, on se dit que c'est pas possible. Et en fait, encore une fois, les enfants, ils ont aucun filtre. Et en fait, ils ne se posent pas autant de questions que nous, adultes, on se pose. Et ce qui fait que ça a donné lieu à des créations assez incroyables et à des échanges très, très beaux. Et c'était, c'était vraiment un très beau moment de complicité entre tous.
Comme s'ils avaient partagé en commun des repères qui s'étaient produits eux-mêmes à travers cette production artistique. Donc un partage de repères dans un espace assez libre, mais quand même encadré, qui est celui de l'atelier, avec du coup une rencontre et une écoute. Et c'est vrai que c'est très touchant ce que tu dis dans la façon dont on peut, en vieillissant, se bombarder de filtres sur ce qu'on pourrait appeler la différence ou l'étrangeté, en tout cas. Là où, à un certain âge avancé, il n'y a pas cette question d'étrangeté, mais plus de regard, de rencontre. Alors, ceci dit, je me pose la question de l'espace. Je m'entends par là la complexité qu'il peut y avoir à se dire, on peut proposer une production artistique dans un hôpital psychiatrique si on a un psychologue, un intermédiaire, un médiateur, un animateur qui propose cela. On peut le faire dans un musée, effectivement, parce qu'on a une équipe existante aussi qui réfléchit à ces choses-là et c'est absolument formidable. Et les deux peuvent fusionner dans tel espace. Mais que pouvons-nous faire d'un hors les murs, d'un autre lieu? Penses-tu que c'est possible qu'il y ait cet espace tiers qui existe, qui soit hors institution culturelle, avec des obligations, comme tu le disais très bien, des obligations nécessaires et qui font avancer les choses, et de l'autre côté, celui de l'hôpital? Y a-t-il un espace au milieu qui soit plus décloisonné aussi, plus ouvert sur la ville? Est-ce qu'on réfléchit à ces choses-là?
Alors, on fait du hors les murs, nous, au Macval. On fait surtout du hors les murs dans les écoles, les collèges et les lycées, souvent en collaboration avec des artistes. C'est vrai qu'à ma connaissance, on fait moins de hors les murs dans des structures médico-sociales, aussi parce qu'en fait, c'est très compliqué de se rendre dans une structure médicale. Enfin, voilà, c'est encore quelque chose d'assez cloisonné, malheureusement. Ou alors c'est vraiment à toute petite échelle ou avec des structures avec lesquelles on travaille depuis très longtemps. Mais effectivement, il faudrait, je pense, aussi parce qu'en fait, les personnes qui se trouvent en structure médico-sociale, pour elles, venir au musée, c'est un enjeu. C'est à différents degrés, bien sûr, mais... les sortir du lieu dans lequel elles sont quotidiennement et les amener dans un nouveau lieu qu'elles ne connaissent pas, dans lequel elles peuvent avoir peur, dans lequel elles peuvent être perdues. Déjà, ça, c'est un enjeu énorme. Et peut-être effectivement trouver un lieu au milieu de tout ça qui serait finalement... qui n'appartiendrait à personne.
Neutre.
Voilà, qui serait neutre, ouais. Qui appartiendrait à personne, dans lequel les deux structures pourraient collaborer. Et bon, nous, c'est proche du musée, mais on a un jardin. On possède un jardin qui est très grand et qui est très agréable. Et c'est vrai que souvent, on va dans le jardin avec des groupes parce qu'on sort du musée, on sort de ce lieu, même si la visite s'est très bien passée, même si on sort du lieu un peu sacré et on va dans un espace extérieur où il y a du son, des bruits. Et tout de suite, il y a une deuxième ouverture qui se fait chez ces personnes-là. Et c'est vrai qu'effectivement, trouver ce lieu neutre serait intéressant.
Pour qu'ils puissent s'approprier chacun en fait, l'espace qu'il aurait donné ou qu'il s'approprie justement à cet endroit-là. C'est vrai que c'est en tout cas peut-être quelque chose sur lequel on peut réfléchir à l'avenir. On a un petit peu parlé des ateliers au Macval. Est-ce que ça fait partie de tes missions au Macval précisément ou il y a autre chose que tu fais là-bas?
Moi, je suis en alternance vraiment auprès de la chargée de l'accessibilité.
D'accord.
Donc, c'est tout ce qui touche au montage de projets avec ces structures, handicap et champ social, C'est aussi développer les outils de médiation accessibles. Donc, tout ce qui est audiodescription, livré en FALC, donc en facile à lire et à comprendre pour le public avec un handicap mental ou psychique, et finalement pour tous, parce que les enfants, ça fonctionne aussi très bien. Les personnes qui ne parlent pas forcément français, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, encore une fois, on est dans de la perméabilité totale des outils de médiation. Donc ça, et là récemment, j'ai mené un projet qui me tenait à cœur au musée. J'ai fait un appel à candidature auprès des personnes aveugles et malvoyantes pour demander à avoir des volontaires pour créer avec moi une visite un peu type pour le public, pour ce public-là. Et en fait, donc avec, y a 3 personnes qui ont répondu présentes. Donc elles sont venues plusieurs fois au musée, on a visité les expositions, on a réfléchi ensemble à quelles œuvres étaient pertinentes, quelles œuvres un peu moins, quels outils on pouvait amener en plus que simplement la parole. Et donc ensemble, on a créé des maquettes tactiles avec nos propres mains, avec ce qu'on a dans les réserves. Donc pas du tout en passant par une entreprise, mais en passant par notre sensibilité à nous. Et en plus de ça, on a pu amener voilà, l'odorat aussi, avec des parfums. Et en fait, c'est assez beau parce que le meilleur moyen de proposer une offre de médiation adaptée, c'est de travailler avec le public à qui il est destiné. Et en fait, c'est là que prend tout son sens dans la médiation culturelle. C'est avoir les retours. Et moi, j'ai énormément appris pendant ce projet, beaucoup plus que ce que j'ai l'impression de leur avoir appris. Alors qu'en fait, enfin voilà, c'est un échange perpétuel, mais c'est un très beau moment. Et en fait, il faudrait faire ça pour... Enfin, c'est déjà globalement ce qu'on fait au musée. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu faire ce projet-là. C'est parce que dans tous les cas, on travaille avec nos publics pour leur proposer des médiations adaptées. Et ça ne se fait pas dans tous les musées. Et c'est quand même une réelle chance d'avoir ça. Et il faudrait que ce soit beaucoup plus généralisé, je pense, dans les institutions.
Et puis l'ouverture sur l'adaptabilité à la demande, au public, en tout cas à la spécificité de la personne en face, j'ai l'impression qu'elle pousse au DIY aussi.
Oui.
Donc il y a un côté vraiment autonomisant pour l'un comme pour l'autre.
Ouais, complètement. Et c'est... Ouais, c'est génial en fait de travailler comme ça.
Oui, je suis d'accord, bravo. On va à nouveau écouter un morceau, ce sera Brigitte Fontaine avec Prohibition et on se retrouve juste après.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, parole écrite. Fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Malade choses sont prohibées. On les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Nous sommes en dernière partie d'émission, toujours avec Valentine qui nous parle de l'association Souffleur de Sens, mais aussi du MACVAL et surtout de ce qu'elle entreprend au niveau de l'accessibilité dans le milieu culturel. Valentine, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Tu travailles actuellement, donc tu es à nouveau sur ces deux missions-là. Tu continues sur ces deux missions-là, mais tu es aussi étudiante à la Sorbonne Nouvelle.
Oui.
Et tu travailles aussi sur ton mémoire de recherche qui, j'imagine, t'apporte à la fois beaucoup de nouvelles connaissances, mais aussi est une zone de réflexion pour mettre en place ces choses-là à l'avenir. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton sujet de mémoire ?
Oui, mon sujet de mémoire, c'est la médiation culturelle pour le public déficient visuel et spécifiquement en art contemporain. Donc en fait finalement tout ce que j'entreprends au quotidien m'aide et sont des leviers aussi pour, enfin l'un dans l'autre en fait ça se regroupe et l'un et l'autre m'ont aidé à développer tout ça et en fait ça m'a toujours intéressé de savoir comment est-ce qu'on parlait d'art avec des personnes aveugles. Et donc ce sujet est venu très rapidement en fait et je me suis du coup beaucoup intéressée à qu'est-ce qu'on propose comme outil de médiation, comme médiation humaine pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et en fait quand on commence à mettre un orteil dans ce milieu-là, en fait on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'acteurs et d'actrices qui travaillent là-dedans et qui propose des choses très, très intéressantes, enfin, voilà, comme Souffleur d'Images, comme plein d'associations et comme plein de structures en fait. Et surtout que ce public-là est énormément en demande d'inclusion dans le milieu culturel en fait. Et il y a énormément de projets qu'on peut mettre en place pour ce public-là et pour tous les publics en fait. Et c'est hyper intéressant, d'autant plus en art contemporain, qui est quand même un art qui est en train de se faire, avec des médiums très différents, qui prend des tailles, des proportions, des formes hyper diverses. Et en fait, tout ça, corrélé ensemble, ça donne des choses parfois assez extraordinaires, en fait.
Ça me donne l'image de quelque chose de souple aux deux endroits,
Oui.
En fait, comme si la souplesse dans l'art ou la souplesse dans la proposition, l'adaptabilité à nouveau, était quand même une chose hyper fondamentale et nécessaire pour pouvoir continuer à proposer ça. Quelque chose de rigide ne pourra pas permettre d'ouvrir ces portes-là à la suite.
Non, ça c'est sûr.
Donc tu as vu qu'il y avait énormément de collectifs. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'en reparler.
Je l'espère aussi.
Je te souhaite, on te souhaite tous beaucoup de force et de courage pour cette soutenance, cette fin de mémoire. Et merci vraiment infiniment d'être venu, c'était très intéressant. Et voilà, je te dis à plus tard, on vous dit tous à plus tard pour une prochaine émission Gestalt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.